Bonsoir. Je voulais d'abord remercier Michel et ses collègues de m'avoir invité à ce colloque tellement bien organisé. Les participants ont fait des interventions très intéressantes et ça a provoqué des débats stimulants. Alors, merci à Michel. Je voulais aussi dire que c'est un honneur de participer à un petit événement dans lequel participe aussi le monde diplomatique montréalais. Et puis, je dois dire que j'ai un certain défi maintenant, parce que non seulement c'est la fin de la journée, mais tout le monde a un verre vide. Et le bar est là, et je sais que vous pourriez avoir d'autres intentions que m'écouter parler. Alors donc, je vais adresser la deuxième partie du titre de ce programme, c'est-à-dire autre modèle d'intégration régionale. Et je le fais en deuxième lieu pour faire un lien avec le Mexique. Et étant donné que le consul général du Mexique est ici, j'espère bien qu'il va commenter ce que je vais dire ou répondre, ou même répondre aux questions que je vais poser. Parce que je suis au commencement d'un nouveau projet et je dois avouer que j'ai plus de questions que de réponses en ce moment. Ce qui est nouveau, c'est région, soi-disant région, dont les États membres ne sont pas nécessairement contigus, mais ils ont nécessairement la même idéologie économique. Et ce qui est nouveau en Amérique, dans l'hémisphère, c'est une région qui s'appelle l'Alliance du Pacifique. Et l'Alliance du Pacifique partage non seulement le Pacifique, mais une idéologie claire, néolibérale. Ils ont tous des accords de libre-échange entre eux. Ils croient aussi tous dans des accords pour protection de l'investissement. Mais ils ne sont pas tous voisins. Pourquoi le Mexique? Mais parce que le Mexique est un des cinq membres, et le Mexique a plus ou moins 55% de la population et 55% du produit national brut. Donc ça joue un rôle, peut-être ça va jouer un rôle très important dans l'Alliance. L'Alliance du Pacifique a comme objectif de créer une zone économique intégrée sur le plan intérieur, de développer les investissements des pays membres dans les autres économies sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, l'Alliance espère la priori est qu'une entité avec les cinq membres est plus que les cinq membres individuellement, et donc ils vont attirer plus de commerce avec les pays de l'Asie, ils vont attirer plus d'investissements, et ils vont peut-être se faire plus entendre au niveau des négociations internationales. Alors pourquoi le Mexique? Je peux supposer sans le savoir qu'il y a des motivations négatives et positives. Négatives parce qu'il y a une certaine déception, Monsieur le Consul a mentionné diplomatiquement cette déception dans en ce qui concerne ce que le Mexique a gagné de l'ALENA sur le plan de croissance, investissement, qualité de vie, inégalité sociale, etc. Négatif, peut-être aussi, c'est la concurrence, la nouvelle concurrence de la Chine. Et puis, positivement, la motivation pour le bien-être que l'Alliance du Pacifique offre au Mexique un nouveau meilleur marché. Un marché pour ses exportations, un marché pour ses investissements et des collègues avec qui vont peut-être augmenter la portée de la voix mexicaine à Washington ou dans la TPP par exemple. Alors ça c'est la réalité que je vous présente. J'ai maintenant deux types de questions pour M. le Consul Général, s'il veut bien répondre, ce n'est pas nécessaire, parce qu'il y a toujours le deuxième verre de vin là. Mais un type de question, c'est pour sur l'Alliance du Pacifique même, c'est c'est considérable, mis ensemble, ces économies viennent en deuxième place après Mercosur, mais Mercosur est un désastre actuellement. Ça paraît considérable, mais l'intégration actuelle des économies, de ces cinq économies, c'est Chile, Pérou, Colombie, Costa Rica et Mexico, est minime, plus ou moins 1,5 ou 2% d'intégration commerciale. Les possibilités que cette intégration s'augmente me paraissent aussi minimes. Pourquoi ? Parce que les économies ne sont pas complémentaires sur le plan commercial. C'est-à-dire, par exemple, Chile exporte le cuivre. Pérou exporte l'or. La Colombie exporte énergie, pétrole, charbon. Mais les autres pays n'importent pas le cuivre, l'or, l'énergie. Alors, ça pose une question. Comment est-ce que l'Alliance Pacifique du Pacifique va réaliser les ambitions du Mexique? Il y a aussi un deuxième problème pour l'Alliance, à mon avis, c'est que cette cohérence idéologique, en anglais « like-mindedness », c'est « region of like-minded states », me paraît très instable. Par exemple, récemment, vous savez tous, le Chili a élu une présidente qui appartient au Parti communiste. Madame Bachelet s'oriente beaucoup plus vers Équateur, Bolivie, Argentine. Ben alors, ok, socialiste. Est-ce qu'elle sera comme Lula da Silva et maintenir la politique du Chili ou pas? En Costa Rica, le mois dernier, le candidat pour la présidence de Costa Rica a gagné 1,5% plus de votes que le candidat conservateur pour la présidence. On ne saura pas avant avril parce que le tour final sera en avril, mais ça pose la question de quelle sera la durée de la cohérence idéologique de l'Alliance Pacifique, parce que ça, c'est la base de cette nouvelle région. Alors, ça c'est un problème. Sur ma deuxième question porte sur un autre aspect de ce nouveau régionalisme qui est dans la littérature de régionalisme comparé, ça s'appelle overlap, le chevauchement d'un pays membre dans deux ou trois ou quatre régions. Mais c'est normal que les pays appartiennent à beaucoup d'organisations internationales, mais c'est moins normal que les pays appartiennent à deux régions avec mission économique. Et le problème, c'est que si les normes d'une région contredisent les normes d'une autre région, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le Mexique, je pense, ou je pose la question, pas sur le plan économique, mais sécuritaire. Parce que, comme nous savons tous, l'Amérique du Nord a comme caractère actuel des frontières dures, des frontières difficiles, des frontières barrées, plus ou moins. Et par contre, l'Alliance du Pacifique prône les frontières ouvertes et pas fermées. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est un problème? Et si c'est un problème, comment est-ce que le Mexique va le résoudre? Ou qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est deux questions. En résumé, je m'intéresse beaucoup à savoir, et la semaine prochaine, je serai dans le district fédéral de Mexico avec une petite équipe d'étudiants pour développer nos recherches. Mais la grosse question est-ce que l'Alliance du Pacifique va résoudre, ou jusqu'au quel point sa appartenance dans l'Alliance du Pacifique va résoudre les problèmes que Mexico a trouvés dans l'ALENA. Monsieur le conseiller.
Vous voulez répondre? Je me dis, il faut répondre.
Je vais prendre mon verre.
D'accord. C'est une université, ça, non?
Ah, tout à fait.
Ouais. Je me sens un peu dans un examen professionnel.
Ouais,
je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais j'ai quelques idées. J'espère pouvoir vous répondre, ne serait-ce que brièvement et peut-être tangentiellement. Mais bon, premièrement, il faut savoir, le Mexique, c'est un pays d'Amérique latine en Amérique du Nord. C'est un pays qui a des appartenances multiples. C'est un pays d'Amérique du Nord, sans doute. C'est un pays d'Amérique centrale. C'est un pays qui regarde vers le Pacifique, qui regarde vers l'Europe. C'est un pays des Caraïbes aussi. Ensuite, une plaque tournante. Le Mexique a beaucoup d'accords de libre-commerce, comme vous le savez, monsieur le professeur. Nous avons des accords. Le premier d'entre eux, c'était l'accord qu'on avait fait même avant l'ALENA avec le Chili. Et c'est un accord qui marche très fort, qui a fait croître nos échanges d'une façon très impressionnante. Joël, mon collègue, était conseiller économique à Santiago avant de venir ici. Quantas veces desde el inicio del tratado con Chile? Ça a été multiplié par 4. Donc, je ne vois pas de contradiction entre l'appartenance du Mexique à l'ALENA et l'appartenance du Mexique à un groupe de pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour mieux faire la concurrence vers les pays du Pacifique. Ça, c'était la première, parce qu'il y avait tous ces pays du Pacifique qui ont été appelés l'arche du Pacifique. L'arc du Pacifique qui voulait donc avoir de meilleures relations avec les pays d'Asie. Et on s'est rendu compte qu'il fallait accélérer ça. Et comment on a fait ça? On est allé immédiatement voir cette idée que Alan Garcia, le président du Pérou, a eue de mettre ensemble, premièrement, les trois pays, le Chili, le Pérou et la Colombie, qui, eux, ont des frontières. Et après, on a voulu joindre ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'on est like-minded. Moi, j'étais ambassadeur en Argentine avant de venir ici pendant 4 ans. Et j'ai vu, et j'ai subi, il faut dire, les shortcomings, je ne sais pas comment dire, du Mercosur. Par exemple, le Mercosur ne peut pas, et jusqu'à présent, n'avance pas dans sa négociation avec l'Union européenne. Parce que eux, par exemple, ils ont une frontière commune du point de vue de tarifs. Ils ont un tarif commun. Et ils ont pris la décision de ne pas négocier individuellement, mais en bloc. Et là, on voit deux choses. Premièrement, l'Uruguay a déjà négocié des accords de libre-échange en dehors du Mercosur. Et je crains bien que bientôt, on va voir des négociations reprendre avec l'Union européenne sans l'Argentine. Alors, d'un côté, on a quatre pays, cinq maintenant, qui ont cette like-mindedness et qui veulent avancer et qui avancent d'une façon très rapide. Très rapide, il faut dire que ça a commencé en 2011, ceci, même un petit peu avant. Et ce que ce groupe de pays a pu faire jusqu'à présent est très remarquable. Entre autres, ils ont déjà signé un accord, entre tous. Très bientôt, ils auront des bourses intégrées. Il y a de la mobilité de travail aussi et beaucoup de décisions qui se sont prises par les présidents qui sont en train de se faire avec des échéances très claires à 6 mois, à 10 mois, des choses comme ça, c'est très dynamique. En ce qui a trait à la stabilité de la région, j'étais en Argentine quand il y a eu le changement de gouvernement au Pérou. Et il y avait Ollanta Humala, le nouveau président péruvien, qui, lui, on pourrait croire qu'il serait même à gauche de Mme Bachelet. Et je me souviens très bien avoir eu une réunion où j'étais présent, où l'on a demandé aux Péruviens, alors, vous restez ou vous partez ? Eux, c'était clair. Ils ont dit, non, on est de la partie, on reste là. J'ai la chance de connaître Mme Bachelet personnellement. Pourquoi ? Parce que j'étais avant chef du protocole et j'ai fait des voyages au Chili avec mon président. Je l'ai reçu à Mexico plusieurs fois. Et c'est une dame qui a les idées, je crois, très claires, qui a bien profité et qui a reconnu les avancements du point de vue économique qui ont été faits sous la dictature. Même quand son propre père a été séquestré par les militaires à ce moment-là, et qu'elle a dû fuir le pays en Allemagne, justement. Et je crois qu'on pourra avoir une réaction similaire à celle que Ollanta Humala a eue en ce moment-là. Donc moi, je suis très fier de ce qui se passe en ce moment. Je vois que d'un côté, nous avons l'Amérique de l'Atlantique, qui évolue, et on a l'Amérique latine du Pacifique qui évolue. Alors, reste à voir. Il faut croiser les doigts et penser le mieux pour l'Alliance du Pacifique.
Une réponse à sa question.
Alors, le mot de la fin, monsieur le doyen, s'il vous plaît, Jean-Pierre Beau. On avait tout prévu dans cette présentation ce soir, et on avait même prévu que Jean-Pierre Beau interviendrait à la fin, comme c'est le cas. Jean-Pierre, le micro est à toi.
Eh bien, écoute, j'avais prévu quelque chose plutôt pour le début.
Ah bon ? Ça change tout.
Messieurs les consuls généraux, monsieur Clarkson, monsieur le directeur, chers amis, c'est évidemment avec un grand plaisir que je suis ici ce soir. C'est important parce que je sais que ce sont trois unités de l'Institut d'études internationales de Montréal qui ont travaillé conjointement. C'est la preuve qu'un institut, ce n'est pas simplement un directeur avec quelques personnes autour, c'est une série de groupes. Et je sais qu'il y a trois groupes qui ont travaillé. Il y a la chaire Nicole Turmel, j'ai vu que Nancy était là, le CEIM, Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, j'allais dire encore le vieux sigle, parce que je suis vieux et ma mémoire me fait défaut parfois, et l'Observatoire sur les États-Unis, je pense, de la chaire Raoul Landuron. Trois structures importantes qui ont collaboré pour faire ce colloque sur l'ALENA. Alors, je ne vais pas faire une analyse, parce qu'elle a été faite par plusieurs, même si j'ai travaillé un petit peu sur l'ALENA, sur l'intégration statistique les nomenclatures qui sont les mêmes ou qui tentent d'être les mêmes. Il y a des avancées spectaculaires, mais il y a évidemment des problèmes qui se posent. La prochaine fois, tu m'inviteras et je ferai une présentation là-dessus. Mais c'est important, cette thématique, pour nous qui sommes des citoyens canadiens, américains ou mexicains, parce que je sais que l'ALENA a un impact direct sur nos vies, mais c'est surtout quelque chose d'important sur le plan de la recherche scientifique. Plusieurs ont mentionné d'autres formes de regroupement, d'intégration. On a parlé de l'Europe unie, qui est un exemple particulièrement spectaculaire. On a parlé d'un exemple, disons, moins spectaculaire, qui est l'exemple du Mercosur, qui fonctionne peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait. On a parlé de l'Alliance du Pacifique, on n'aurait pas pu parler de l'ASEAN, par exemple, en Asie. Ce sont des exemples très différents d'intégration, et je pense que pour nous qui travaillons à la faculté de sciences politiques et de droit, très axée sur l'international, avec un département de sciences politiques et un département de sciences juridiques, qui se rassemble autour de l'idée de comparaison internationale, l'ALENA et les différentes formes d'intégration constituent des exemples particulièrement intéressants d'études. Alors, je crois que ce que l'on fait depuis aujourd'hui et jusqu'à demain est quelque chose d'important. Alors, je voudrais remercier les organisateurs. Voilà, c'est la fin, vous nous dites sortir. Et je voudrais vous souhaiter de bons travaux. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir laissé quelques instants pour... Thank you.